On avait l'ambition d'aller plus loin. Voilà, donc quelque part, c'est un échec.
Un petit point coup de coude et beaucoup de regrets pour le sélectionneur du 15 de France. Voilà les rugbymen français éliminés en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby, battus 19-20 par les Gallois. Nous verrons avec notre consultant Eric Blanc s'ils doivent nourrir beaucoup de regrets. Encore des perturbations à la SNCF, troisième jour que les cheminots exercent leur droit de retrait et en gare, les voyageurs s'organisent.
On n'a aucune information, si j'ai personne pour venir me chercher, j'ai rien et je dois payer un hôtel avec mon petit de 3 ans.
Et à l'instant, le ministre des Transports, le secrétaire d'État aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, dit sur BFM TV que les discussions progressent vers un accord. Il évoque même un retour progressif à la normale pour demain. Toujours pas de vote sur le Brexit en Grande-Bretagne et la classe politique britannique s'agace de l'entêtement de Boris Johnson à ne pas vouloir reporter cette décision.
Il se comporte comme un sale gosse. Le Parlement a pris une décision, il doit la respecter.
Toujours dans le journal de la mi-journée, le groupe Casino, qui compte bien étendre l'ouverture de ses hyper le dimanche comme à Angers. L'exposition Léonard de Vinci qui débute au Louvre jeudi. On en parlera avec mon invité Sophie Chauveau, romancière biographe de l'obsession Vinci. Et puis la météo avec 4 départements en vigilance orange, puis inondation, l'Ardèche, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire et un épisode Cévenol qui s'annonce, nous dira Valérie Darmon.
Europe 1.
Et comme ils doivent nourrir des regrets, nos rugbymen français à 10 minutes de la fin au Japon, ils menaient encore au score, mais il y a eu ce coup de coude, ils ont été réduits à 14 et les voilà éliminés en quart de finale par les Gallois sur le score de 19-20, Simon Rubin.
Eh oui, scénario cauchemardesque pour les Bleus qui ont livré un match incroyable d'abnégation, de discipline. Ils ont dominé l'entame de match en marquant 2 essais en 10 minutes d'entrée. La France qui est devant et qui domine jusqu'à la 49e minute. Et ce coup de coude de Sébastien Vaamaina sur un adversaire, la sanction est immédiate et très logique. Un carton rouge pour le Français. Et dès lors, les Bleus en infériorité numérique vont livrer un combat hallucinant. Tenir, résister jusqu'à 6 minutes de la fin du match. Essai gallois et la France qui finalement a laissé passer sa chance à ce moment-là. Scénario cruel, défaite amère qui vient donc clore ce mondial tricolore.
Simon Rubin au Japon pour Europe 1, avec moi en studio notre consultant Eric Blanc, bonjour.
Bonjour.
On y a cru jusqu'au bout, Simon Rubin dit à l'instant, scénario cruel, ils ont de quoi avoir des regrets nos Bleus.
Oui, avec ce tournant du match, il l'a dit, 48e minute, Vaamaina, le coup de coude est autorisé en France, mais au bar, malheureusement pas sur un terrain de rugby, et ça a des conséquences fâcheuses. Alors bien sûr, on ne va pas le montrer du doigt, il a été très bon, je dirais, dans la partie.
Malheureusement, il a marqué le premier essai.
Oui, premier essai de sa vie en équipe de France, mais première expulsion aussi, française. Jamais un joueur avait été sorti lors d'une Coupe du Monde. Voilà, et l'équipe de France, qui avait fait une première mi-temps fantastique, j'allais dire, qui jouait en décapotable, cheveux au vent, chemise à fleurs, 3 essais, une jeunesse française magnifique, avec Dupont et Mtamak, essai d'Olivon, Vaamaina, un Vakatawa, un extraterrestre. Et malheureusement, voilà, en deuxième mi-temps, le rugby professionnel 14 contre 15 et ces Gallois qui viennent nous crucifier. D'ailleurs, sur un essai...
Alors voilà, c'est ça, il y a cette décision de l'arbitre qui accorde un essai aux Gallois 3 minutes avant la fin.
Oui, enfin 6 minutes avant la fin, voilà, sur un arrachage de balle. Il demande la vidéo, l'arbitre, Monsieur Paper, or les Patriotes diront qu'il nous a poivré, mais parce qu'il aurait pu le refuser, mais malheureusement, il l'accorde, il passe 20-19 et après, malheureusement, on n'est plus la main sur le ballon et les Gallois accède, je dirais, à la demi-finale. On se rappelle en 2011 que Warburton, leur capitaine, avait été expulsé. Ils avaient perdu d'un point. Et ce coup-ci, c'est nous, les Français, qui sortons malheureusement par la petite porte.
Un mot, Eric Blanc, bilan quand même. Parce que c'est vrai qu'on avait toujours dit, bon, déjà, s'ils vont en quart de finale, c'est bien. Et là, on s'est dit tout d'un coup, oh, ils auraient pu aller en demi-finale.
Oui, mais c'est la troisième fois qu'on sort, je dirais, en quart, après 91, après 2015. Et là, on répète. Donc, c'est quand même une Coupe du Monde moyenne, même si... Sur ce dernier match, l'équipe française a montré beaucoup de talent, beaucoup d'abnégation et de cohésion.
Merci beaucoup Eric Blanc.
Midi 35, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoelle.
Attention, si vous devez prendre le train aujourd'hui, troisième jour que les cheminots font jouer leur droit de retrait avec à la clé encore des perturbations, même si la SNCF parle d'une reprise progressive du trafic, notamment en région parisienne. Le service est normal pour les transiliens. Sur les grandes lignes, pratiquement tous les TGV circulent. Près de 40% des Ouigo. Côté TER, la situation est très disparate selon les régions. Tout roule en Normandie, en Alsace, alors qu'il n'y a qu'un TER sur quatre en région Occitanie. Marion Gauthier, vous vous trouvez à la gare Montparnasse à Paris. Et contrairement à hier, ce qui vous a marqué depuis ce matin, c'est que les voyageurs commencent à s'adapter pour être sûrs de ne pas rater leur train.
Oui, effectivement Fabienne, les voyageurs ont anticipé. J'ai croisé à l'instant une grand-mère et son petit-fils installés pour 3 heures d'attente au café. Au cas où leur train est supprimé, ils seront fin prêts à sauter dans un autre. De même pour Daniel qui travaille à Nantes demain et doit rentrer impérativement.
L'idée assez tardivement hier soir, j'ai regardé un peu la liste des TGV disponibles, j'ai vu qu'il y avait des incertitudes, donc voilà, on a pris cette décision d'écourter notre week-end. J'avais prévu une visite aux Invalides, j'avais prévu pas mal de choses intéressantes avec ma fille, et voilà, du coup j'en suis là.
Là, dans la file d'attente du guichet qui diminue progressivement, plus qu'un train supprimé sur le tableau d'affichage, mais ce n'est pas encore gagné pour Claire.
Là, normalement j'ai mon train, mais je ne sais pas encore, et arrivé à Nantes, j'ai pas de train, tout est supprimé, il n'y a rien de marqué sur mon appli. Mais en gros, on n'a aucune information. Si j'ai personne pour venir me chercher, j'ai rien et je dois payer un hôtel avec mon petit de 3 ans. Je trouve ça vraiment, vraiment dégueulasse que ça retombe à chaque fois sur nous.
Un étage plus haut, beaucoup de trains régionaux manquent à l'appel.
Je regarde si je vois mon train et je ne le vois pas, ce qui, évidemment, peut mettre le dimanche en l'air.
Antoine doit aller à Saint-Quentin-en-Yvelines sur la journée.
Il faudrait quand même éviter de passer la moitié de la journée dans les gares d'Île-de-France.
Mais il faut prendre son mal en patience, venir en avance ou reporter son trajet.
Marion Gauthier, gare Montparnasse à Paris. Il y a quelques minutes, Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État au transport, a affirmé sur BFM TV que les discussions progressaient vers un accord. Il évoque même un possible retour progressif à la normale pour demain, parce que c'est vrai qu'on assiste depuis hier à une passe d'armes à distance entre syndicats et direction. Les syndicats parlant de droit de retrait quand la direction dénonce une grève déguisée. Et on ne sait pas effectivement ce qui va aboutir de ces négociations. Une situation qui commence à peser pour les voyageurs. Écoutez à ce propos la réaction de Bruno Gazot, le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports.
Les voyageurs se sont retrouvés le premier jour, mais aussi le deuxième et encore aujourd'hui, devant un défaut de prévisibilité et un défaut d'information absolument total. Quand les services ne sont pas exécutés, il est légitime d'être dédommagé. Donc il faut que la SNCF rembourse les billets, il faut que la SNCF, pour tout ce qui est des cartes d'abonnement, qu'elles soient prolongées du nombre de jours où il n'y a pas eu de service. Donc il faut aussi que l'usager soit dédommagé.
Qu'est-ce que vous réclamez, vous, aujourd'hui ?
Et bien, pour l'avenir, on souhaite quand même que la notion de droit de retrait soit mieux précisée par la loi, et en particulier s'agissant d'un danger grave et imminent. S'il est grave, il ne peut pas rester grave très longtemps, donc ça ne peut pas durer non plus éternellement. Hein, de telle sorte que les usagers soient mieux traités, mieux respectés.
Bruno Gazot, le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, qui répondait à Yasmina Katou. Et alors qu'on le disait, le secrétaire d'État aux transports parle de discussions qui progressent vers un accord et donc d'un retour progressif à la normale pour demain. À suivre.
Midi 38, vous écoutez Europe 1 et Fabienne Lemoyle jusqu'à 13h.
Direction maintenant Londres, où les Anglais se réveillent toujours dans l'Union européenne, puisque leurs députés ont reporté leur vote sur le Brexit. Alors que va-t-il se passer maintenant ? Boris Johnson s'entête à ne pas vouloir un report, même s'il a bien été obligé de le demander à Bruxelles. Un entêtement, Anaïs Cordoba, vous êtes notre correspondante à Londres, qui commence sérieusement à agacer la classe politique britannique.
Oui, Boris Johnson joue avec le feu. Hein. Il n'a fait que copier-coller le texte de loi qui demande un délai et a envoyé cette photocopie à Donald Tusk, le président du Conseil européen, sans même la signer. En plus, il a envoyé une note personnelle disant qu'une nouvelle extension serait néfaste aux intérêts du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Une réaction qui lui a valu ce matin un avertissement de ses adversaires. Écoutez le député travailliste John McDonnell.
Il peut être en contempt du Parlement ou des courts eux-mêmes, parce qu'il est clairement en train de undermine. The first letter. He's behaving a bit like a sport brat. Parliament made a decision. He should abide by it.
Boris Johnson humilié par le Parlement, titre la presse britannique ce matin. Mais le Premier ministre ne baisse pas les bras. Dès demain, il devrait tenter de forcer un nouveau vote. En tout cas, le processus législatif pour intégrer cet accord à la loi britannique suit son cours. Et les partis d'opposition se tiennent en embuscade pour tenter d'apporter des modifications à cet accord qui pourrait lui donner une toute autre forme. On parle déjà d'un amendement pour maintenir le Royaume-Uni dans l'union douanière ou soumettre le futur texte à un second référendum.
Anaïs Cordoba à Londres pour Europe 1. Ce matin, dans le journal du dimanche, le patron des sénateurs Bruno Retailleau annonce qu'il va déposer une proposition de loi pour interdire les listes communautaristes aux élections. Écoutez à ce propos la réaction de l'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati, ce matin sur Europe 1.
Mon engagement politique, c'est le combat contre les communautarismes. Oui. C'est ce qui fracture notre destin commun. Et donc, ça, c'est une réalité. Alors, il faut trouver une définition d'une liste communautaire. Parce qu'il faut faire attention, parce qu'on a des listes aussi régionalistes. Moi, je pense qu'il faut interdire toute profession de foi qui va à l'encontre de nos principes républicains. Et ce qu'on appelle le communautarisme... Ouais. Finalement, on met des mots quand on ne veut pas s'attaquer aux choses. C'est que nous, par laxisme, enfin, les responsables politiques en général, on a laissé prospérer un communautarisme qui pouvait se réduire. Je pense qu'effectivement, dans un état de droit, dans un pays républicain comme le nôtre, la politique pénale, la fermeté, la clarté doit être de mise.
Rachida Dati, invitée du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Le groupe Casino persiste et signe. Il va bien continuer à ouvrir son magasin d'Angers le dimanche, bien que la justice lui ait interdit d'employer des animatrices extérieures à la société Casino pour accueillir des clients. Et ce que vous nous apprenez, Olivier Samin, c'est que le groupe compte bien étendre cette ouverture le dimanche à d'autres hypermarchés.
Le géant Casino d'Angers a été le premier hyper à ouvrir en mode automatique. Ce dimanche sera le 9e consécutif. Et ça y est, les habitudes sont prises. La direction annonce une moyenne de 1000 passages en caisse chaque dimanche après-midi. La nouveauté, cette fois-ci, jugement oblige, c'est qu'il n'y aura plus d'animatrice pour accueillir et informer les clients. Les adeptes des courses le dimanche après-midi devront se débrouiller tout seuls pour payer leurs achats avec les caisses automatiques. Il n'y aura pas d'animatrice non plus dans les hyper géants casinos de Gap et de Chaumont, qui ont pris la suite de celui d'Angers le week-end dernier. Et le groupe annonce qu'il va accélérer son plan d'ici à la fin de l'année. Les prochains seront l'hyper de Salon de Provence à partir du dernier dimanche d'octobre et celui de Fontaine-lès-Dijon à partir de la mi-novembre. Le groupe, en tout cas, revendique cette nouvelle forme de distribution sans personnel. C'est un service en mode dégradé, reconnaît-il, puisqu'il n'y a pas de conseil aux clients. Il n'a donc pas vocation à se substituer au mode normal avec des vendeurs et du personnel de caisse, mais il peut se justifier à certains moments de la semaine, comme par exemple le dimanche après-midi. Les syndicats, eux, y sont farouchement hostiles, voyant dans cette politique une course aux parts de marché qui, disent-ils, sera socialement ravageuse.
Olivier Samin.
Le journal des sports.
Avec Lénaïque Lemonnier. Bonjour.
Bonjour.
Pardon, autant
c'est
pour
pas
moi.
Grave.
Grosse désillusion pour le 15 de France. On en parlait en ouverture de ce journal, éliminé en quart de finale de la Coupe du Monde. Des bleus qui sont passés par toutes les couleurs.
Ouais, défaite 19-20 face au Pays de Galles. Et c'est le rouge qu'il aurait fallu éviter, celle de ce carton reçu par Sébastien Vaamaina et qui a fait basculer le match en début de deuxième mi-temps parce que juste avant, tout allait bien. Les bleus menaient même 19-10. Sauf qu'après ce vilain geste et réduit à 14, on a vu un 15 de France déboussolé. Les Bleus rentrent sans la coupe à la maison, mais personne n'y croyait vraiment. D'où cette réaction du sélectionneur Jacques Brunel.
Le résultat n'est pas positif. On avait l'ambition d'aller plus loin. Voilà. Donc quelque part, c'est un échec. Maintenant, personne ne nous voyait sortir de la poule. Personne ne nous voyait gagner le quart de finale. On a montré, et d'une part, qu'on est sorti de cette poule, et d'autre part, qu'on avait la possibilité de gagner ce quart de finale également. Donc voilà, sauf qu'on ne l'a pas fait. Voilà. Le bilan, c'est celui-là. Et donc, on est forcément déçus.
Jacques Brunel au micro, Europe 1 de Simon Rubin. C'est la deuxième fois de suite que les Bleus s'arrêtent avant le dernier carré. Le 15 de France a 4 ans pour tout rebâtir et espérer faire mieux, puisque la prochaine Coupe du Monde, ce sera en 2023, ici chez nous.
Et voilà, il faudra être au meilleur de sa forme. Le foot, et on boucle la 10e journée de Ligue 1 aujourd'hui.
Avec pour commencer, à 15h, Bordeaux-Saint-Etienne, puis Monaco-Rennes. Le dernier match de la journée, c'est l'Olympique de Marseille qui reçoit Strasbourg. Les Marseillais restent sur une défaite, 3 nuls sur les 4 derniers matchs. Ils ont besoin de points, mais le club reste ambitieux et compte bien monter sur le podium au plus vite. C'est le souhait en tout cas d'André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM.
J'ai déjà mis toute la pression sur moi-même de qualifier cette équipe pour le podium. On reste à 3 points du podium. Évidemment, on a raté plusieurs opportunités. Ça, c'est toujours la responsabilité du coach. Mais ça n'augmente pas la pression que j'ai mise sur moi-même. L'objectif reste établi pour la saison. À la fin de la saison, je le rate, je suis le responsable. Et après, c'est à la direction de faire la décision si on continue ou non. Mais c'est comme ça. Pas d'inquiétation, pas de pression en plus, parce que la pression, je mets toujours sur moi-même pour la responsabilité de le travail que j'ai dans mes mains.
André Villas-Boas avec Stéphane Frangy pour Europe 1. Marseille-Strasbourg, match à suivre sur notre antenne dès 21h. Rapidement, les résultats d'hier avec la bonne affaire de Brest qui a gagné 1-0 à Angers. Les débuts de ratés de Rudy Garcia avec Lyon et ce match nul face à Dijon. Nîmes et Amiens, match nul également. Il y a eu un partout. Enfin, Reims a gagné face à Montpellier 1-0.
Et puis un mot de moto.
Ouais, avec la deuxième place du français Fabio Quartararo au Grand Prix du Japon.
Décidément.
Le pilote espagnol, oui, Marc Marquez, a gagné. Il avait déjà gagné il y a 15 jours en Thaïlande. D'ailleurs, c'était là qu'il avait avez été sacré champion du monde en MotoGP, la catégorie des grosses cylindrées.
Merci beaucoup Lénaïque Monnier. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce dimanche.
N'adaptez plus vos pneus aux conditions climatiques. Ce sont vos pneus 4 saisons Hankook qui s'adaptent à la route. Hankook vous présente la météo.
Alors Valérie Darmon, 4 départements en alerte orange, pluie, inondation, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche. Bref, il faut être prudent si on circule dans cette zone.
Et oui, parce que les cumuls vont être, et sont déjà d'ailleurs très importants par endroits. Hein. Il sera tombé d'ici ce soir, puisque c'est ce soir à minuit que la vigilance devrait être levée en 24 heures ou 48 heures pour les Cévennes, l'équivalent d'un mois de pluie. Et les précipitations se renforcent à partir de maintenant encore plus. Les pluies et les orages sont en train de remonter. On le voit sur les images satellites d'ailleurs, hein, très clairement, de Montpellier vers Lyon. Pic d'intensité dans les départements orange cet après-midi et ce soir. De la grêle est également possible et surtout de fortes rafales de vent entre 80 et 100 km/h en plaine, un petit peu plus sur les hauteurs. Ce qui nous annonce un nouvel épisode Cévenol, un épisode méditerranéen même, parce que pluie et orages vont sérieusement cogner à partir de demain et jusqu'à mardi soir sur toute cette région PACA.
Alors, un mot ailleurs, toujours aussi gris.
Eh oui, c'est pas folichon. Hein. De la Bretagne à la pointe du Cotentin, le ciel est variable. La journée se déroule sous un ciel un petit peu moins nuageux qu'ailleurs. Un temps un petit peu plus sec, uniquement donc le long des côtes de la Manche. Par contre, ailleurs, il pleut sur l'ensemble du pays. À un moment ou à un autre de l'après-midi, on n'oublie pas son parapluie, ça c'est certain.
Et j'ai vu que vous aviez mis votre cap de pluie, effectivement Valérie. Les températures, du coup, j'imagine qu'elles sont en baisse.
Eh oui, à La Rochelle, 13 degrés cet après-midi, à Paris 14, 15 à Quimper, 16 à Caen, 17 à Bourges, 19 à Embrun, 20 degrés à Belfort, 23 à Nice, 24 à Lyon et 26 tout de même, la maximale des maximales à Perpignan.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, c'est sans conteste l'exposition qui va marquer l'année. L'exposition Léonard de Vinci au Louvre à partir de jeudi. Mais vous allez le voir dans un instant avec mon invitée Sophie Chauveau, romancière, biographe qui a écrit L'Obsession Vinci. Le grand maître italien est beaucoup plus qu'un peintre. Restez avec nous, c'est passionnant.
Midi 49, le journal de la mi-journée se poursuit sur Europe 1 avec votre invitée Fabienne Lemoelle.
Et c'est donc jeudi que s'ouvre à Paris la tant attendue exposition Léonard de Vinci au Louvre. Et imaginez qu'il y a quelques jours à peine, on n'avait pas encore l'inventaire définitif des œuvres du grand maître italien que le public va découvrir. Mercredi, la justice italienne a enfin donné son feu vert pour que 5 dessins, dont le célèbre homme de Vitruve, passent la frontière et soient prêtés au musée parisien. Et j'ai le plaisir d'accueillir la romancière et biographe Sophie Chauveau. Bonjour.
Bonjour.
Écrivain de L'Obsession Vinci, publié chez Télémaque, roman de la vie de Léonard de Vinci. Vous qui avez vécu des mois plongés dans la vie du maître italien, est-ce que ça l'aurait amusé Léonard de Vinci d'être au cœur de cette querelle franco-italienne que les deux pays se disputent son héritage ?
Sans doute, ça l'aurait amusé parce que ces histoires de politique l'amusaient, mais d'un orteil distrait, je dirais.
Parce qu'il se sentait plutôt italien ou plutôt français ?
Ce qui intéressait Léonard, c'est d'appartenir à l'art. Et l'art n'a vraiment pas de nationalité. Encore plus, à son époque, dans l'Italie des cités. Il n'y a pas de pays qui s'appelle l'Italie à l'époque, il y a des cités. Il change de cité comme de chemise. Il cherche un mécène qui comprenne son art. Donc il va de Florence à Milan, de Milan à Venise, de Venise à Rome, en cherchant quelqu'un qui pourra financer sa folle curiosité, non pas des tableaux comme on croit trop souvent. Donc Milan tombe aux mains des Français quand Ludovic le Mort en est le duc, il passe aux Français sans aucun problème.
D'autant c'est pas Français... un mercenaire pour autant.
Ah, pas du tout. Les Français lui témoignent beaucoup d'admiration, ils mettent un genou à terre, tout va bien, il est content. Et c'est vrai que finalement, les gens qui l'auront le mieux compris sont les Français, mais ça ne fait pas de lui un pro-français.
Alors ça ne fait pas de lui un pro-français, Sophie Chauveau, mais il se trouve qu'on a la Joconde chez nous.
Oui, il est venu avec.
Ah ben oui, mais alors est-ce que ça part pas de là, justement ?
Je sais pas, il a passé les Alpes. 3 ans avant sa mort, on est quand même l'histoire d'un très vieux monsieur qui, pour la première fois de sa vie, vient d'être malade. Donc il est un peu fragilisé. Il passe les Alpes juste avant l'hiver, juste avant la neige. Et il a 3 tableaux qui sont attachés sur les ânes ou les mulets qui passent les Alpes, parce qu'on n'est pas dans des voitures. Et c'est le Saint-Jean-Baptiste, c'est la Sainte-Anne et c'est la Joconde que François Ier, soit il lui donne, soit il lui achète. Là, on n'a pas les contrats exacts. Il les laissera là, il mourra là, il les laissera en étant très heureux les 3 dernières années de sa vie, parce que François Ier l'a vraiment adoubé comme un philosophe.
Et Léonard de Vinci n'aura passé que 3 ans en France, finalement, à la fin de sa vie. Et ce qui est amusant aussi, c'est que quand François Ier vient le chercher pour le ramener à la cour de France, c'est pas du tout pour ses talents de peintre.
Pas du tout. Léonard a brillé dans des arts dont malheureusement nous n'avons aucune trace, puisque c'est des arts éphémères, qui sont à la fois de la musique, il a composé de la musique, il a eu un appris, mais il improvisait, il n'y a pas une note écrite, et des mises en scène de fêtes absolument somptueuses, avec des artificiers, des choses incroyables, on voyait la lune et les étoiles en plein jour.
C'est là que justement il fait ses fameux croquis pour inventer des machines pour ses spectacles.
Il a toujours fait des croquis dans tous les carnets de tous les artistes de l'époque, plutôt de tous les artisans de l'époque, puis il n'y a pas d'artistes encore. Tout le monde gribouille, on a cherché les carnets de Léonard depuis un siècle, hein. Avant on s'en souciait pas du tout.
Et quand on dit qu'il n'est pas qu'un peintre, effectivement, l'exposition qui s'ouvre au Louvre, il y aura une dizaine de toiles, je crois, à peu près.
Il n'y en a pas plus. On en a...
C'est-à-dire combien de toiles a-t-il
recensé avec certitude, on en a une quinzaine.
Pas
c'est
plus.
Tout sauf un peintre.
C'est qui Léonard de Vinci, alors, c'est si ce n'est pas un peintre?
C'est l'idéal de la Renaissance, c'est un humaniste. C'est quelqu'un qui a développé ses connaissances, sa curiosité, et qui s'y est appliqué de façon quasi professionnelle dans tous les métiers. Dans la mathématique, dans la musique, dans l'art de la sculpture, dans l'ingénieur, dans l'art de la guerre.
Alors justement, je vous propose d'écouter Jean-Pierre Anquizy, ingénieur spécialiste de Léonard de Vinci, qui confiait justement cette dimension beaucoup plus scientifique à l'ordre d'Autriche il y a quelques mois sur Europe 1.
Ce qui est intéressant de voir, c'est comment il a imaginé qu'on pouvait voler, aller dans l'air, qui est l'endroit des esprits, hein. C'est l'endroit de Dieu, c'est un endroit un peu particulier. Et puis après, de voir les dessins, la qualité de ses dessins et la qualité des annotations technique qu'il marque, parce qu'il fait des flèches, qui sont des flèches comme on représente nous maintenant pour les forces, et donc il va beaucoup plus loin que l'aspect regarder la nature. Il ose regarder d'ailleurs à l'intérieur du corps humain, chose qu'on n'avait jamais faite, et les dessins qu'il fait de l'intérieur du corps humain, la cartographie, avec les flux de sang, avec tout ce qui se passe au niveau des muscles et autres, elle est exceptionnelle. Il est persuadé que tout est dans la nature, et que si l'homme veut avancer dans son futur, il faut qu'il se rapproche de la nature, mais lui, il dessine, et il crée des hypothèses que nous, après quelques siècles plus tard, on réutilisera et on fera avancer.
Voilà, véritable précurseur de la science moderne, Léonard de Vinci. Il aime la nature, il vit dans la nature. C'est ce que vous racontez justement dans l'Obsession Vinci, Esprit Chauveau.
C'est d'abord une colline, c'est d'abord un tout petit village où il naît, où il grandit, où il passe les 12 premières années de sa vie. On dit de Léonard que c'est un homme sans lettres ou un ignorant, ce qui signifie qu'il n'a pas appris le latin. Il n'a pas envie d'aller à l'école, il fait l'école buissonnière, il apprend à lire, à écrire, à compter, ce qui est bien suffisant pour un Toscan. Tous les Toscans savent lire, écrire, compter, ce qui est important d'ailleurs à l'époque. Et puis le reste, c'est l'observation de la nature. Il dépiote les plantes, il regarde les animaux, comment ça marche, et il va tout essayer de comprendre avec l'observation. Ce qui fait de lui effectivement une nature scientifique, c'est l'observation. Il est autodidacte puisqu'il se forme toujours sur le tas. Rien ne peut lui être transmis autrement que par l'observation et l'expérimentation.
C'est pour ça que c'est aussi un éternel insatisfait, parce que ce qui est marquant dans son œuvre, c'est qu'il y a beaucoup de dessins inachevés.
Alors moi j'ai une autre théorie. Dans ses carnets, il écrit une phrase qui m'a tout à fait trembler, fait frissonner, bouleverser. Il dit « le drame de n'être pas à la hauteur de son propre jugement ». Ce qui est pour moi la véritable nature de l'artiste. On veut toujours faire quelque chose qu'on n'atteindra pas. Et c'est peut-être en cela qu'il est un très grand artiste et pas seulement un artisan. Il a ce doute sur soi-même qui est assez beau, mais ça ne l'empêche pas d'aller défricher partout en ayant besoin d'en savoir toujours plus.
Il ressemble à quoi aussi? Parce qu'on a toujours cette image du vieil homme à la barbe,
alors ça, c'est un
fourni.
C'est un mythe complet.
C'est-à-dire,
on sait qu'il est très grand puisqu'il a la même taille que François Ier, dont on a les armures, dont on est au-delà du 1m90-12.
Ah oui, ce qui est à l'époque, très surprenant, c'est immense.
Quand il arrive à Florence, il est follement beau. C'est un très, très beau jeune homme de 15, 16, 17 ans. La légende s'empare tout de suite de lui. On dit qu'il arrête un cheval au galop avec sa main tellement il est fort, qu'il peut tordre le ballon d'une cloche avec deux doigts. C'est impossible, hein, personne ne peut faire ça. Donc, tout de suite, on s'empare de la puissance de cet homme, qui est une puissance physique. Il fait du cheval des heures, il a une capacité physique d'endurance. Il est très gentil. Il porte le sac des vieilles dames, pour simplifier les choses. Et il fait rire tout le monde. C'est un type drôle. Il
passe, oui, on n'imagine pas du tout
pas
comme
du
ça.
Tout, mais pas du tout. Puis il n'a pas de barbe. Jusque très tard, il est imberbe. Donc, il a les cheveux, on dira, blond vénitien. Donc, il ne ressemble pas du tout à l'idée qu'on s'en fait.
Et ce que vous dites aussi, Sophie Chauveau, c'est qu'en fait, c'est déjà une star à l'époque. Plus que Michel-Ange.
Beaucoup plus.
Alors
parce
qu'il
qu'en
a très
plus, il est sympathique. Ce que n'est pas Michel-Ange. Michel-Ange est un type désagréable. Il crache par terre quand il rencontre des peintres, tellement il est jaloux. Léonard est adorable, il est bon camarade, il vit de façon très fraternelle avec tous les artistes de Florence. C'est un joyeux. Et les chroniqueurs de son temps parlent de lui comme En fait, on dirait le premier people ou le premier médiatique de l'époque.
L'une des choses qui est marquante aussi, c'est un précurseur. Vous dites aussi qu'il est vegan avant l'heure ?
Je dirais pas vegan, mais végétarien. Il ne veut pas de souffrance animale. Donc, toute sa vie, il va se battre. Il va... Des fois, il n'a pas d'argent du tout, mais il faut qu'on nourrisse les chevaux. Tant pis pour les hommes.
Il transporte beaucoup de légendes. On a dit qu'il était mort dans les bras de François Ier. Ça aussi, ça relève de la légende.
Oui, bien sûr, il faut demander à M. Ingres pourquoi il a peint Léonard mourant dans les bras de François Ier, qui à cette époque-là, à cet instant-là précisément de la mort de Léonard, se trouve à Saint-Germain-en-Laye en train de baptiser son fils. Donc c'est le roi de France, il est formidable, François Ier, mais il n'a pas le don d'ubiquité.
Mais ça veut dire quelque chose.
Ça veut dire que c'est quelqu'un d'important pour François Ier et donc pour la royauté à ce moment-là.
Et justement, qu'est-ce que vous voulez qu'on en retienne aujourd'hui avec ces multiples facettes que vous nous offrez dans votre livre « L'obsession Vinci » ?
Moi, j'ai tendance à penser que la grande œuvre de Léonard, c'est sa vie. Donc il faut aller se plonger dans toutes les arcanes de sa vie, dans tous les échecs, dans tous les moments où il hésite, où il cherche. Où
il doute beaucoup.
Et ben voilà. Et c'est là qu'il est extrêmement séduisant comme artiste pour moi. Évidemment, on va nous montrer des choses merveilleuses.
Et
à
vous
partir
allez,
de
j'imagine,
lundi.
Aller au Louvre.
Ben oui, quand il y aura moins la queue.
Et quelle œuvre vous avez envie de voir, justement?
Moi, j'ai une passion pour la Sainte-Anne, que je trouve est le tableau le plus intelligent et le plus souriant. L'agneau sourit, le petit Jésus sourit, Anne sourit, la Vierge sourit. Et ils ont tous un sourire de la même famille. C'est la tendresse de Léonard pour tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les humains et les animaux, par exemple.
Merci beaucoup Sophie Chauveau d'avoir été avec nous en studio ce midi à Europe 1 et nous avoir fait partager cette passion qu'on peut retrouver dans votre livre « L'obsession Vinci » publié chez Télémac. Et on voit vraiment que c'est le roman d'une vie et que vous nous invitez à découvrir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et donc, on le rappelle, l'exposition Léonard de Vinci, c'est à partir de jeudi au musée du Louvre. Il y a exposition exceptionnelle, dispositif exceptionnel, puisqu'il faut impérativement réserver sa place pour accéder à l'exposition. Et puis, vous le savez, à 13h, on prolonge la tranche d'information avec les carnets du monde. De retour avec nous, Sophie Larmoyer. Bonjour Sophie. Et vous démarrez l'émission sur les bancs de la fac.
Bonjour Fabienne, oui c'est ça, mais c'est une fac très particulière, alternative en Turquie. Une université non officielle montée par une vingtaine de profs destitués par le pouvoir d'Erdogan. Vous savez, le président turc a profité du coup d'état manqué de 2016 pour limoger à tour de bras ceux qui sont de près ou de loin opposés à sa politique. Et donc des milliers d'intellectuels universitaires ont tout perdu, à commencer par leur job. Eh bien, ils enseignent autrement, ailleurs, et on va en rencontrer certains.
Merci beaucoup Sophie, et à tout de suite.
Bon dimanche à tous. Dans un instant, le rappel des titres de l'info sur Europe 1.